En tout cas, voilà, c'est vraiment un plaisir d'être là, de partager ce temps ensemble. On est presque en train de faire une petite répétition du culte en commun qu'on aura donc dimanche prochain à l'église de la Prairie. On se retrouvera à nouveau. Et c'est vraiment, voilà, une joie de partager ensemble aussi la parole de Dieu. Je suis réjoui ce matin de vous partager ce que Dieu a mis sur mon cœur, ce qui brûle un petit peu en moi. Je vous parlerai pas de mon tracteur ce matin. On parlera d'autres choses. Et je voudrais commencer de but en blanc par une question qu'un serviteur de Dieu a posée un jour dans une rencontre comme celle-ci, dans laquelle j'étais présent, et qui m'a beaucoup interpellé, qui m'a fait pas mal réfléchir et qui continue un petit peu d'alimenter ma marche de foi. Une question toute simple, mais une question cruciale pour nos vies. Cette question, c'est que faisons-nous ici? Ou plutôt, que faisons-nous encore ici? Pourquoi sommes-nous présents? Pourquoi sommes-nous toujours là? En fait, si on y réfléchit bien, et je m'adresse ce matin surtout à ceux qui sont passés par les eaux du baptême, nous qui avons accepté le Christ comme Seigneur et Sauveur, finalement, pourquoi sommes-nous encore ici? Cet homme de Dieu expliquait que si les choses fonctionnaient normalement, quand on plonge dans les eaux du baptême, on devrait, piouf, instantanément, être télétransporté, envoyé directement au ciel par un ascenseur spirituel, et puis continuer notre vie auprès du Seigneur, du Tout-Puissant, puisque finalement, auprès de lui, nous serons encore plus efficaces pour le louer, pour l'adorer. Finalement, comment se fait-il que nous soyons toujours là? Pourquoi Dieu nous laisse mijoter, patienter, travailler, souffrir aussi parfois dans cette vie terrestre? Un petit peu comme si nous étions dans une salle d'attente, une salle d'attente du royaume céleste, comme si nos salles de culte évangélique étaient des salles d'attente. D'ailleurs, je m'amuse parfois de me dire que quand même, d'une certaine manière, nos salles de culte évangélique ressemblent un peu à des salles d'attente, à des salles d'embarquement d'aéroport. Et puis, dans cette réflexion, je me dis aussi que nous, finalement, on a quand même de la chance. Parce que pour nous, en France, dans notre contexte, cette attente, elle n'est pas très inconfortable. Cette attente, elle n'est pas très désagréable. Nos salles d'attente sont plutôt bien équipées. Nous avons un relatif confort, nous sommes plutôt en sécurité, on a de quoi se divertir, de quoi passer le temps. Mais pour d'autres de nos frères et sœurs, je peux vous assurer qu'en sortant des eaux du baptême, non seulement ils ne sont pas télétransportés au ciel, mais leur vie devient un véritable enfer sur terre. L'attente est un enchaînement d'épreuves avec des pressions familiales, de l'oppression politique, des violences, des privations. Bon, alors nous, on a bien France 2 qui vient un petit peu nous titiller, voilà, de temps en temps. Ce matin, j'aimerais vous parler en parallèle de mon partage d'un contexte missionnaire que je prendrai en illustration, un contexte que je connais bien dans un pays que je ne nommerai pas mais que j'affiche à l'écran. Un pays bien particulier dans lequel la marche chrétienne est particulièrement difficile, mais où Dieu fait quand même des choses extraordinaires. Et dans ce pays, un des grands classiques en termes de pression, quand tu deviens chrétien, on commence par te couper l'eau potable. Plus d'accès à l'eau potable. Alors soit l'eau potable courante, soit le puits du village, plus accès, parce qu'on considère que tu risques de contaminer, d'apporter une malédiction sur l'eau du village. Et là, j'aimerais dire que si demain, moi, on me coupe l'eau potable, ma vie d'attente chrétienne va devenir tout d'un coup moins agréable. Les principes théologiques, tout d'un coup, ils sont mis à rude épreuve. Et puis, si tu t'accroches, si tu persévères, il n'est pas impossible que l'étape suivante, ce soit de brûler ta maison. Si vous ne vous êtes jamais posé la question de pourquoi sommes-nous encore là, c'est que peut-être votre salle d'attente est plutôt confortable. Mais croyez-moi, cette question, elle a vraiment du sens pour ceux qui vivent la persécution. Pourquoi sommes-nous encore ici? Et le baptême, c'est à la fois une immense joie pour eux, Et puis, c'est aussi et souvent le début de gros, de très gros ennuis. Mes amis, vous le savez, autant que moi, l'Église n'a pas pour vocation d'être une salle d'attente. Parce que Dieu n'est pas en retard, il n'est pas en train de réparer un bug dans la machine qui devrait nous envoyer directement au ciel. Il ne nous a pas oubliés dans cette vie, qui n'est pas une sorte de pré-paradis. Si on y réfléchit bien, Jésus, il a parlé de cette salle d'attente. Il en a parlé à ses disciples. À un moment donné, il leur a dit « Attendez, patientez à Jérusalem ». Alors, pas d'attendre d'être télétransporté au ciel, en patientant dans une vie de confort, de félicité, de plaisir, mais d'attendre la venue de l'Esprit-Saint. Et pour quelle raison ? Pour leur confort personnel ? Pour leur garantir prospérité et bonheur ? Pas du tout. L'Esprit, il a été envoyé pour une mission qui était bien trop grande pour quelques hommes et femmes avec peu d'instruction dans une toute petite région reculée du monde. Cette mission, c'est d'aller jusqu'aux extrémités de la terre pour être les témoins de la bonne nouvelle. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est pour ça que nous sommes encore ici. C'est pour que le royaume de Dieu prospère. C'est pour la moisson. La vocation d'un disciple n'est pas de se tourner autour du nombril indéfiniment. Je crois que nous dépensons parfois beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, nous chrétiens, à améliorer notre petite vie, notre petite salle d'attente personnelle, à ce que nous soyons bien, à ce que nous soyons divertis, à ce que nous essayons de vivre finalement correctement. Mais d'une certaine manière, moi je dois avouer que je me réjouis parfois quand dans l'Église, on perd un peu en confort. Parce que, d'une certaine manière, je crois que le confort, c'est un de nos principaux ennemis, dans notre contexte, ici en France. Et on risque d'être frustré, d'être aigri, si nous n'entendons pas les aspirations de l'Esprit-Saint qui est en nous, qui vit en nous, et qui nous a été donné pour une mission, devenir des ouvriers dans la moisson. C'est ce que le Christ attend de nous. Faites de toutes les nations des disciples. Alors nous ne devons pas laisser le Saint-Esprit prendre la rouille au fond de nous. C'est la seule raison pour laquelle nous sommes encore là. C'est la seule chose que nous ne pourrons plus faire au ciel. Et cette mission, c'est l'affaire de tous. Pas uniquement celle des pasteurs, des ministères à temps plein, qui dans le monde évangélique ne représentent à peu près qu'un pour cent des membres de nos églises. C'est bien l'affaire de nous tous, les 99% d'amateurs dans la moisson. Pour être honnête, il faut le dire, le constat d'avancement global de cette mission que Christ nous a laissée, il n'est pas très très bon. En tout cas, d'un point de vue purement comptable, on considère qu'en 1900, il y avait 34% de chrétiens et qu'aujourd'hui, il y en a à peu près 32%. Alors certes, il y a beaucoup plus de chrétiens aujourd'hui qu'en 1900 en nombre, mais en proportion, un petit peu moins. Et il est intéressant de constater que la dynamique, elle est tout à fait différente chez les musulmans. Dans l'islam, il y avait 12% de musulmans en 1900, il y en a plus de 25% aujourd'hui. Et les démographes considèrent que ce sera la première religion au monde avant 2050. Le bilan purement comptable de la mission que Christ nous a confiée, il n'est pas très bon. Pourtant, finalement, quand on y réfléchit bien, faire des croyants, ce n'est pas si compliqué que ça. En fait, on peut constater que les gens autour de nous, ils sont prêts à croire toutes sortes de choses. Des choses parfois un peu ridicules, il faut le dire. Mais les gens sont prêts à croire toutes sortes de choses. Mais le problème, et il est de taille, c'est que c'est pas tout à fait ce que Jésus nous demande. Il nous demande pas de faire des croyants. Jésus nous demande de faire des disciples. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Et là, c'est pas la même histoire. Parce que avoir la foi, être croyant, c'est une chose. Être un disciple, c'en est une autre. Moi, j'ai la foi, je crois, mais je dois dire que être disciple, je me rends compte que j'ai encore du chemin à parcourir. Parce que disciple, on parle là d'engagement, de service, de sacrifice, de don de soi pour le royaume. Et là, en Occident, on a un petit peu de mal avec ça. Aujourd'hui, on considère que 75% des évangéliques sont en Asie ou en Afrique. Et trois quarts. Et pour la plupart, c'est des costauds dans la foi, parce qu'ils affrontent la persécution. Et je ne sais pas si vous le savez, mais depuis peu de temps, la Chine est aujourd'hui le pays qui possède la plus grande communauté évangélique au monde. Je crois que nous passons beaucoup de temps à essayer d'améliorer nos vies, et quand nos vies deviennent trop confortables, nous devenons consommateurs, plutôt que disciples, prêts à renoncer à nous-mêmes. Et ce constat, bien sûr, je le fais aussi pour moi ce matin. Alors, je voudrais vous proposer une petite réflexion. On va essayer d'imaginer ensemble, un petit travail, un petit effort d'imagination qu'on va faire ensemble. Vous connaissez ce passage où Christ demande à ses disciples de prier le Père pour qu'il envoie des ouvriers dans la moisson. Un passage bien connu. Et je vous propose ce matin un petit exercice. On va imaginer ensemble que nous sommes des recruteurs dans une agence de recrutement, dans une agence intérim, si vous voulez, des recruteurs pour trouver des ouvriers dans la moisson pour le royaume. Et dans cet exercice d'imagination, comme la Bible nous donne un bon exemple d'un ouvrier vraiment modèle exemplaire en la personne de Paul, eh bien, je vous propose que nous nommions notre agence de recrutement Pôle Emploi. Une agence Pôle Emploi qui serait mandatée par une entreprise, elle-même nommée le Royaume de Dieu SARL, pour lever, former, équiper des ouvriers pour la moisson. Et c'est toujours avec beaucoup d'imagination que nous allons réfléchir à l'offre d'emploi que nous pourrions publier pour recruter des ouvriers. À quoi ressemblerait cette annonce? Comment pourrions-nous imaginer recruter le parfait moissonneur? Cherche moissonneur qui... Ça serait quoi son profil? Ça serait quoi le CV parfait? Alors bon, moi j'ai évidemment préparé ce partage, donc j'ai pris un petit peu d'avance dans cette réflexion, et je voudrais vous partager trois points clés, trois éléments choisis qui me semblent particulièrement importants. Le premier point concerne la motivation. Quel genre de motivation doit animer un ouvrier dans la moisson? Pour apporter un début de réponse à cette question, je vous propose de revenir à l'origine de cette expression dans un texte qu'on trouve dans Matthieu, mais qui est également présent dans l'évangile de Luc. Jésus parle à ses disciples. On nous dit que Jésus parcourait toutes les villes et les villages, il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité. À la vue des foules, il fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Vous connaissez très bien ce passage. Moi, j'ai été réinterpellé récemment par les circonstances qui ont conduit Jésus à prononcer ces mots. En fait, en constatant l'immensité du travail missionnaire, toutes ces foules abattues, errantes, Jésus est rempli de compassion. Rempli de compassion. C'est quand même pas rien. Notre patron, le patron de l'entreprise, le royaume de Dieu, est ému de compassion. On pourrait se dire, si nos patrons étaient aussi émus de compassion, ça serait peut-être pas mal, hein. Rempli de compassion, mais c'est quand même pas rien. Je crois que c'est pas un petit détail de l'histoire biblique. Je pense pouvoir dire que de tous les dieux que les hommes se sont inventés dans leur folle imagination, je crois que pas un seul n'est capable de compassion. C'est pas l'envie de manifester sa gloire et sa puissance qui anime Christ, c'est la compassion. Nous, on a souvent à cœur de voir se manifester la gloire et la puissance de Dieu. On aimerait en mettre plein la vue aux inconvertis, aux athées. Mais ce qui animait le Christ, c'est la compassion pour les perdus. C'est un sentiment très puissant. Il y a une expression populaire qui dit que la compassion, c'est un langage que les sourds peuvent entendre et que les aveugles peuvent voir. Littéralement, compassion, c'est compassio, c'est souffrir avec. C'est souffrir avec l'autre. C'est une émotion qui implique, qui engage. Sommes-nous des ouvriers animés de compassion? La compassion est-elle toujours notre moteur, notre source de motivation? Nos églises sont-elles imprégnées de compassion? Est-ce qu'on cherche à prouver qu'on a raison ou est-ce qu'on veut prouver que nous aimons? Réfléchissez à ça. Est-ce qu'on cherche à prouver qu'on a raison ou que nous sommes pleins d'amour? Est-ce qu'on cherche à flatter notre foi ou est-ce qu'on cherche à manifester l'amour inconditionnel de Christ ? La parabole du Samaritain, je ne vais pas venir dessus ce matin, mais elle est très intéressante de ce point de vue. Le royaume de Dieu a besoin de gens au service, animés de compassion pour les perdus. Et pas d'ouvriers eux-mêmes perdus, animés par le besoin de servir leurs intérêts personnels, leurs ambitions, leur ministère. Ce ne sont pas nos noms que nous devons faire perdurer. C'est pas nos noms qui doivent être en haut de l'affiche, mais c'est bien celui de Christ. C'est pas de nous dont l'histoire doit se souvenir. Paul dira dans Acte 20, au verset 24, « Ma vie m'importe peu, je ne lui accorde aucun prix. » C'est des paroles fortes. Et je crois qu'il faut qu'on soit vigilant parce que notre écosystème évangélique est favorable parfois à l'émergence de stars, d'une certaine manière, qui, c'est vrai, sont de très bons moissonneurs avec un bon coup de main, qui sont capables vraiment d'avoir du fruit, mais qui peuvent aussi parfois devenir un danger pour eux-mêmes et pour les autres. Je ne sais pas si vous connaissez l'auteur Francis Chan, qui a écrit le livre Crazy Love, et qui dit quelque chose d'intéressant. Il dit « La scène, l'estrade, c'est un lieu tellement dangereux. Chaque fois que j'y monte, c'est comme si je buvais un peu de poison. Parce que le succès peut parfois remplacer la compassion qu'on a pour les autres. Et puis, quand on court à droite, à gauche, voir des ministères stars, pendant ce temps, on ne moissonne pas. Je suis interpellé par Jésus qui n'a pas cherché à faire éclater sa gloire. Il a souvent dit, après une guérison, « Chut, ne le dites pas, ne le dites à personne. » Il cherchait parfois même à dissimuler ce qu'il faisait, alors qu'il aurait pu faire éclater sa gloire de manière surnaturelle, avec des myriades d'anges. Mais c'est la compassion qui a animé son ministère sur terre. Dès son premier miracle, l'eau changeait en vin, un miracle qui n'a pas trop de sens réellement, si ce n'est d'avoir de la compassion pour ses mariés qui étaient bien embêtés, jusqu'à son sacrifice sur la croix. Sommes-nous nous-mêmes comme Christ émus de compassion devant ce monde, devant cette moisson ? Moi, personnellement, je trouve que c'est pas toujours facile d'avoir de la compassion. Les journalistes de France 2, c'est dur là, d'avoir de la compassion. Et dans notre société française, on voit tellement de choses qui vont pas bien, qui tournent pas rond, on aura envie de dire « mais c'est pas comme ça qu'il faut faire », c'est pas toujours évident d'avoir de la compassion. Et ça me fait dire que finalement, cette compassion qui vient de Dieu, c'est déjà du surnaturel. Il y a déjà un truc là-dedans qui n'est pas quelque chose de normal, de naturel. C'est déjà un des fruits de l'esprit, d'avoir cette compassion pour ce monde autour de nous. Tout ça me fait dire que sur notre offre d'emploi, il nous faudrait indiquer que nous cherchons des ouvriers animés de compassion. Le deuxième point sur lequel j'ai choisi de me pencher concerne les compétences. Parce que quand même, sur une fiche de poste, pour un métier, pour un job, on a besoin de compétences, d'évoquer quelles compétences on a besoin. Est-ce que ce serait peut-être dans notre cas d'avoir un bon coup de main avec la faucille, d'avoir un bon rendement, de savoir reconnaître le bon grain des mauvaises herbes, de savoir conduire une moissonneuse-batteuse ? Quelles sont les compétences d'un bon ouvrier dans la moisson ? Pour répondre à cette question, on peut se référer à notre ouvrier modèle, qui est l'égérie de notre agence de recrutement, l'apôtre Paul. Je pense que personne ne contestera qu'il est vraiment un ouvrier particulièrement efficace dans la moisson. Il est quand même celui qui va lancer l'évangile dans tout le bassin méditerranéen. Et Paul n'a jamais rien construit, jamais rien bâti, mais il a laissé un héritage vraiment énorme. Et on va se pencher sur un exemple intéressant qui est relaté dans le livre des Actes, au chapitre 16. C'est un de mes passages préférés dans le livre des Actes. Je ne vais pas le lire parce qu'il est assez long et je suis sûr que vous connaissez bien cette histoire. Paul est avec Silas et suite à une révélation dans un songe, ils vont à Philippe. Et dans la ville de Philippe, il y a une femme qui les suit, possédée d'un esprit mauvais pendant plusieurs jours. Et puis Paul, exaspéré au bout d'un moment, va chasser cet esprit, ce qui va lui attirer pas mal d'ennuis. Alors, des ennuis quand même assez sérieux. Hein. Avec Silas, ils vont se faire attraper, battre à coups de bâton, et puis ils vont se faire mettre les fers aux pieds et jeter au fond d'une prison. Donc, une situation quand même particulièrement difficile pour eux. J'ai lu récemment que dans l'Empire romain, ils avaient l'habitude de mettre des entraves très larges aux pieds pour vraiment écarter les jambes des prisonniers et les mettre dans une position très inconfortable. Donc, ils sont vraiment là dans une sale posture. Et puis, dans le livre des Actes, on nous dit que vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y eut un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Un passage extraordinaire. Et je me suis fait cette réflexion de me dire, mais j'ai souvent mis le focus, j'ai souvent été interpellé par ce tremblement de terre qui libère tout le monde, qui est vraiment un truc extraordinaire. Mais en y réfléchissant bien, de plus en plus, je trouve que ce qui est vraiment hallucinant et vraiment surnaturel, encore plus que le tremblement de terre, c'est l'attitude de Paul et Silas. Les gars sont roués de coups, entravés au fond d'une prison, et ils chantent des louanges à Dieu. Pas des supplications. Seigneur, sauve-nous. Non, ils chantent des louanges à Dieu. Et la louange, je me dis, moi, des fois, j'ai du mal à rentrer dedans, comme on dit, parce que des fois, on est tracassé, on a des soucis. Malheureux, là, ils se sont fait vraiment rouer de coups, ils devaient avoir mal partout, ils sont dans une situation inconfortable, ils n'ont rien fait de mal, ils sont là de manière injuste, et ils louent Dieu. Et c'est tellement puissant, tellement incarné, tellement fou dans ces conditions que les autres prisonniers en sont captivés, sans mauvais jeu de mots. Hein. Mais alors moi, j'ai déjà vécu un petit tremblement de terre, j'ai déjà vu des miracles, mais j'ai rarement vu une attitude aussi surnaturelle que celle de Paul et Silas à ce moment-là. Vraiment, c'est impressionnant. Et ça m'interroge. C'est quoi les compétences qui t'amènent à ce niveau de consécration? Et c'est pas fini. Le texte continue. On nous dit, lorsque le gardien de la prison s'est réveillé et a vu les portes de la prison ouvertes, il a tiré son épée prêt à se tuer, car il croyait que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul a crié d'une voix forte, ne te fais pas de mal, car nous sommes tous ici. Mais c'est une attitude complètement illogique. Il y a un tremblement de terre surnaturel qui ouvre toutes les portes, qui fait tomber tous les liens, et eux, ils restent dans la prison. On dit parfois, il faut se saisir de notre délivrance. Ben là, eux, ils ne l'ont pas fait en tout cas. Et tout le monde reste dans la prison. Même les autres prisonniers qui devaient, eux, avoir de bonnes raisons d'être là et probablement être de vrais vilains, de vrais méchants. Tout le monde reste là. Il se passe cette nuit-là un truc tellement puissant dans cette prison que même les autres prisonniers n'ont plus envie de liberté. Même la liberté ne les intéresse plus. Et ce truc puissant, c'est pas tant le tremblement de terre, c'est plutôt ce qu'incarnent Paul et Silas, ce qui transpire d'eux. Et c'est pas fini. Plus loin dans l'histoire, on découvre que Paul, avec sa citoyenneté romaine, pouvait échapper à tout ça. Il aurait pu dès le départ, il le fera d'ailleurs dans un autre contexte à Jérusalem, il aurait pu dès le départ dire « Hop, hop, les gars, je suis citoyen romain, ça se passe pas comme ça, il faut un vrai procès. » Il aurait pu y échapper dès le départ. Vraiment, ce gars-là, il est pas normal. C'est presque à croire que sur notre offre d'emploi, il faudrait dire qu'on cherche des fous. On cherche des gens qui sont pas normaux. Parce qu'une personne normale, elle aurait pas chanté des louanges, elle aurait supplié Dieu. Une personne normale, quand le tremblement de terre a tout ouvert, elle se serait enfuie, elle aurait pris ses jambes à son cou en remerciant Dieu pour ce miracle. Vraiment, Paul et Silas ont des cerveaux qui marchent pas comme tout le monde. Ils ont un peu perdu l'esprit de la chair, pour adopter celui du royaume. Et plutôt que voir l'horreur de la prison, la douleur des coups, l'injustice subie, l'échappatoire facile, eh bien, Paul a discerné une opportunité spirituelle d'annoncer le royaume de Dieu. Paul a discerné une ouverture pour moissonner. C'est ce qui va permettre de démarrer à Philippe une des toutes premières églises sur le sol européen. C'est quoi ce genre de compétences? Qu'est-ce qu'on met sur la fiche de poste? C'est quoi les compétences qui permettent d'avoir une telle consécration, jusque dans les pires galères? En fait, on peut tourner la question dans tous les sens, c'est pas une question de compétences, mais c'est bien une question d'état d'esprit. Comment devenir des Paul et des Silas? Alors on fait souvent des formations, des séminaires sur comment mieux vivre, les bénédictions de Dieu, comment être vainqueur, comment être de petit Dieu sur la terre, comment être le plus confortable possible dans notre salle d'attente, quitte à occulter un petit peu la réalité de la vie menée par les premiers disciples. Mais on parle peu de comment être témoin dans l'épreuve, comment trouver la force de rester dans la prison pour mieux atteindre l'impact. Peut-être c'est pas pour rien que nous manquons un peu d'efficacité comparé aux chrétiens en Asie notamment, qui ne courent pas tout à fait après les mêmes victoires que nous. Le troisième et dernier point que j'aimerais aborder avec vous, c'est un point important, c'est un des premiers qu'on regarde quand on regarde une offre d'emploi, c'est la rémunération. Combien c'est payé tout ça? Quel salaire proposons-nous pour recruter des ouvriers dans la moisson? Et j'aimerais vraiment attirer notre attention sur ce point ce matin. Parce que j'ai parfois l'impression, peut-être que je me trompe, mais qu'on a une petite tendance à tricher un petit peu sur la fiche de poste. On a une petite tendance à vouloir enjoliver un peu la situation pour appâter des candidats. On laisse croire parfois à des conditions de vie de disciples de Christ bien plus confortables que ce qu'elles ne sont en réalité. J'en veux pour preuve, il y a beaucoup d'enseignements dans les milieux évangéliques, sur Internet notamment, qui s'apparentent à du développement personnel, avec de multiples recettes sur comment vivre une vie de vainqueur. Alors oui, c'est vrai, être un ouvrier dans la moisson, c'est travailler pour notre Père Céleste, qui nous veut du bien, qui nous aime et qui nous bénit. Mais sommes-nous toujours bien conscients de ce qu'est être béni? Qu'est-ce que ça veut dire? Une petite question ce matin. Les apôtres étaient-ils bénis? C'est une vraie question. Les apôtres étaient-ils bénis? C'est une question cruciale, parce que humainement, ils ont tous très mal fini. Sauf Jean, mais il est quand même passé par la torture. Ils ont tous mal fini. Et en tout cas, d'un point de vue humain. Je crains que pour nombre de chrétiens, vivre la bénédiction du Seigneur s'apparente un peu plus à vivre la vie de tonton Picsou que celle de tonton Paul, de tonton Pierre ou de tonton Silas, qui ont mené des vies de vainqueurs d'un point de vue spirituel, mais difficiles d'un point de vue humain. J'ai l'impression que le Seigneur me bénit, on le traduit par le Seigneur améliore mon attente, ma salle d'attente personnelle. Et là, on a un problème. Parce qu'en vrai, c'est pas du tout les conditions de travail que l'employeur donne. Alors, ce que la Bible nous dit, c'est que nous sommes, nous, conduits, amenés, encouragés à payer le prix. Bien sûr, le salut est gratuit. Mais notre vie de disciple, c'est une vie dans laquelle il faut aussi payer le prix. Dans le pays que j'ai évoqué précédemment, on encourage au travers d'une œuvre des implanteurs d'églises qui sont tous des locaux. Ce sont des indigènes du pays, nés dans le pays, qui connaissent parfaitement la culture et qui implantent des églises dans un contexte missionnaire de première génération. Personne n'a entendu parler de l'évangile. Donc vraiment un contexte très pionnier. Et puis ces implanteurs d'églises se réunissent parfois au niveau régional, au niveau national, et ils s'encouragent les uns les autres dans ce contexte difficile. Et ce printemps, un des leaders qui apportait le message pour encourager ces implanteurs, un leader lui-même issu du pays, qui vit dans ce pays, expliquait la chose suivante. Pour encourager les implanteurs, il disait « Mais marcher avec Christ, marcher dans les pas du Seigneur, c'est pas être à pied, prier et avoir un vélo. Être à vélo, prier et avoir un scooter. Être à scooter, prier et avoir une voiture. Être disciple, c'est être en voiture, prier, finir à scooter. Être en scooter, prier, finir à vélo. Être à vélo, prier, finir à pied. Parce que nous sommes appelés à tout donner pour le royaume. » Et nous, quand on partage ça, ça nous donne pas envie. Mais eux, dans ce contexte-là, mais il y a le feu dans la salle. Tout le monde est enthousiaste à l'idée de dire « Mais oui, je suis prêt à y aller, je suis prêt à payer de ma personne pour faire avancer le royaume de Dieu. » Alors, c'est clair que des ouvriers prêts à donner, d'une certaine manière, à donner de leur personne pour le patron, c'est pas trop conforme à notre code du travail français, surtout pas notre culture. Des ouvriers qui devraient payer pour travailler, oh là là, alors là. Quand la Bible parle d'ouvriers dans la moisson, ce texte n'est pas écrit dans le contexte du code du travail français. Hein. Et d'ailleurs, le royaume de Dieu, vous l'aurez bien compris, mais ce n'est même pas une entreprise. Mais l'ouvrier dans sa moisson, il doit être prêt à payer le prix de ses convictions. Et ce matin, on va pas se mentir, c'est difficile. C'est difficile. Et du coup, on préfère mettre l'accent sur Dieu qui fait du bien, et c'est aussi une vérité. Mais c'est un petit peu plus vendeur. Le seul problème, c'est que quand on ne parle que de ça, ça nous ramollit. Ça nous endort. Et quand on compare le résultat de la théologie du confort, je dirais, avec celle du sacrifice en Asie, eh bien les résultats ne sont pas les mêmes. C'est contre-intuitif, mais c'est aussi ça le surnaturel. L'appel du Christ, c'est une mise au défi, c'est un challenge. Moi, je travaille dans l'enseignement et je vous garantis que le challenge, c'est très important pour que les gens avancent, pour qu'ils grandissent. Comme le dit la déclaration de Lausanne, lorsque nous transmettons l'évangile, nous n'avons pas le droit de cacher ce qu'il en coûte d'être un disciple du Christ. Alors payer le prix, je ne vous l'apprends pas, personne n'aime ça, on n'aime pas cette idée de renoncer à soi-même, de donner de sa personne, de sacrifice, de souffrance encore moins. Mais il y a quand même des gens bizarres, des gens étranges, dont nous parle la Bible, qui se réjouissaient d'avoir pris des coups de fouet. Et je crois de plus en plus que c'est un des signes visibles les plus flagrants de la puissance de l'Esprit. Parce que là, on ne peut pas mentir. Cet Esprit envoyé par Dieu qui nous rend capables de renoncer à nous-mêmes. Cet Esprit qui a permis à Pierre, en un discours, d'amener 300 personnes à se convertir. Cet Esprit qui rendait les disciples heureux d'avoir pris le fouet au nom de Jésus. Cet Esprit qui les a quasiment tous conduits au martyre. C'est ça l'Esprit Saint de la Bible. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent, dans l'étude un peu historique, qui disent, ben quand même, cette histoire de Jésus, pour que des gens soient allés jusqu'au martyr pour défendre une idée, si elle était fausse, si c'était un mensonge, ils ne seraient pas allés jusque-là. Il y a une puissance dans leur vie de sacrifice jusqu'au don ultime de leur vie. Cet Esprit de Dieu, il n'a en aucune manière vocation à faire de nous des pachas qui vivent une vie de tranquille, de confort. Et je ne sais pas quelle est votre théologie du sacrifice et du don de soi, parce qu'on n'en parle pas souvent. Mais Paul, il a une théologie du sacrifice. Et je suis témoin qu'ils ont globalement la même dans le pays que j'ai cité tout à l'heure. Et je peux vous dire que c'est très puissant. Et contrairement à ce qu'on peut imaginer, ça crée un enthousiasme, une ferveur, une foi hallucinante. Et avec les fruits qui vont avec. Et ces gens, nos frères et sœurs dans ces pays, ont conscience qu'on ne fait pas des disciples en les séduisant par les promesses d'une vie meilleure, mais que c'est plutôt la promesse d'une vie avec pas mal de galères liées à la persécution qui les amène à la consécration. Et ça ne les freine pas beaucoup, parce qu'ils ont conscience de ce qu'il y a à gagner, du vrai prix de tout ça, le salut en Jésus-Christ. Le seul et véritable bénéfice d'une vie avec Christ. Le salut en Jésus-Christ. Ce salut qui, parfois, dans nos églises, perd un petit peu de terrain au profit d'un enseignement qui serait plus du développement personnel, un peu plus vendeur. Pourtant, interrogeons-nous, ne vaut-il mieux pas entrer au paradis en n'étant pas spécialement en forme que d'être très bien portant pour aller droit en enfer ? Nos frères et sœurs, dans d'autres contextes, l'ont bien compris et ça leur donne un enthousiasme de fou. Ils n'acceptent pas Christ comme un promoteur d'une vie meilleure de confort, ils l'acceptent comme Seigneur et Sauveur. Parce qu'ils ont conscience de leur misère spirituelle. Et leur misère spirituelle est pour eux plus grave que leur misère matérielle. Ça ne les empêche pas d'être témoins de milliers de conversions, de milliers de guérisons, de miracles surnaturels. Mais ne cachons pas malgré tout la difficulté du message que nous annonçons. L'appel de Christ, c'est aussi un appel au renoncement et au don de soi. Je crois que nous ne devons pas édulcorer la fiche de poste. Être un disciple de Christ, c'est pas facile. C'est pas facile. Et on est appelé à tenir bon jusqu'au bout. Une autre image donnée par ce leader, dans le pays évoqué précédemment, auprès d'implanteurs d'église, il disait « Mais finalement, nous sommes comme des bougies. Nous portons la lumière. » Et la bougie, elle porte la lumière, et pour ça, elle disparaît, jusqu'à ne plus rien laisser. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés, porter la lumière jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de nous, mais que notre mission soit accomplie. Et ça, à nouveau, ça leur donne de l'enthousiasme. Alors on peut se dire, oh, mais c'est un autre contexte, c'est différent. Ben, pas tant que ça, parce que la vie confortable, ils la connaissent très bien. Toutes nos technologies quasiment viennent de là-bas. Ils n'ignorent rien du monde moderne. Ils sont confrontés au sécularisme, tout comme nous. On se dit, dans les contextes missionnaires, les gens ils acceptent Dieu facilement. Pas du tout. Ils distribuent des tracts, les gens les déchirent. Ils portent plainte contre prosélytisme. C'est très dur. C'est très dur aussi là-bas. C'est pas plus facile ailleurs. En fait, la vérité, c'est difficile partout. Mais c'est possible. Ici aussi, c'est possible. À condition de ne pas chercher à détourner le message, de pas céder peut-être à la facilité de déformer un peu l'évangile pour faire une sorte de marketing chrétien bon marché, et à condition que tout le monde s'y mette. Et cet appel, il est vraiment pour tout le monde. Et c'est un peu sur ça que je voudrais insister et terminer ce matin. C'est vraiment pour tout le monde, cet appel d'être disciple. Personne n'est trop peu qualifié, personne n'est trop peu compétent, trop peu utile, trop jeune, trop vieux, trop fatigué. Non, cet appel est pour tout le monde. On a tous une part à prendre. Tant que nous sommes dans notre salle d'attente, tant qu'on n'a pas pris le vol pour rejoindre le Seigneur, c'est que nous pouvons encore être utiles pour cette mission. Alors, chers frères et sœurs, je vous invite dans la semaine qui vient à prendre du temps pour réfléchir quelles sont les compétences, les dons, les passions, les ressources que vous n'avez pas encore mis au service de la moisson. Auriez-vous quelque part, au fond du garage, une vieille faucille qui traîne, qui attend d'être utilisée? Et tous ensemble, affûtons nos outils, laissons l'Esprit nous inspirer et rentrons le grain dans les greniers du ciel. Éternel Dieu Tout-Puissant, je veux te rendre gloire, toute la gloire ce matin, te rendre grâce pour ce que tu fais dans nos vies. Merci Seigneur pour ce salut gratuit. Merci parce que au travers d'autres, nous avons eu accès à ce salut, Seigneur, et nous sommes vraiment tellement reconnaissants de ce que tu fais pour nous dans nos vies. Seigneur, nous ne voulons pas non plus ignorer que la mission que tu as confiée à tes disciples, c'est la même pour nous aujourd'hui, d'aller, d'annoncer cette bonne nouvelle, de faire des disciples parmi toutes les nations. Et Seigneur, ce matin, nous voulons modestement, avec ce que nous sommes, nous remettre entre tes mains pour que tu puisses nous utiliser dans cette moisson. Parce que Seigneur, nous savons que c'est l'aspiration profonde de l'Esprit qui est en nous, c'est ce qu'il cherche à faire au travers de nous, et nous ne voulons pas frustrer ton Esprit Saint, Seigneur. Nous ne voulons pas le gâcher d'une certaine manière. Nous voulons au contraire s'appuyer sur lui, prendre appui vraiment sur ce qui vient de toi, Seigneur, pour faire ce que tu attends de nous. Seigneur, je te prie vraiment de nous donner dans les temps qui viennent des opportunités d'ouvrir nos yeux spirituels, Seigneur, pour peut-être voir des choses que tu nous aurais confiées, données, que nous n'avons pas encore mis au service de ton royaume, Seigneur. Et nous voulons avoir une pensée aussi pour tous nos frères et sœurs qui dans le monde souffrent pour porter ce message de bonne nouvelle. Et nous te prions ce matin vraiment de les bénir, de les fortifier, de les encourager. Tout comme je te prie de le faire pour cette église qui nous reçoit ce matin. Amen.